justement chez Hegel, est-ce que par psychanalyse avec la dialectique du maître et l'esclave, c'est un moment historiquement daté ou est-ce que c'est quelque chose que chacun reproduit?
C'est une bonne question. En fait, c'est tout le problème de l'histoire chez Hegel, c'est que les dates sont des dates sans être des dates. Voilà. C'est-à-dire que quand vous avez une date où vraiment vous dites « Ah bah là, je vois bien la mort d'Alexandre en 323, c'est clair. » Oui, mais pour Hegel, ça aurait pu arriver en 322 ou en 324, ça aurait été la même histoire. C'est-à-dire que la logique précède la chronologie, de sorte que la dialectique du maître et de l'esclave est historique au sens logique. Il y a eu un moment où ça a eu lieu sous une forme rapprochée. Et en même temps, ça n'a pas besoin d'avoir eu lieu à tel moment ou à tel autre. Ça peut même avoir eu lieu après la rencontre effective de l'autre et après un temps qui n'a pas d'abord été belliqueux. Vous voyez, il y a une forme de contingence qui peut s'en mêler. Et d'autre part, pour vous dire encore en quoi ce n'est pas totalement historique, c'est que ça a beau avoir eu lieu, ça continue de se passer dans chaque rencontre. Et pour renforcer la chose, le devenir chez Hegel est antérieur au temps. Oh. Et bah, c'est un peu comme dans une démonstration. C'est l'exemple le moins imparfait que j'ai quand je vous dis ça en tête. Qu'elle soit logique, mathématique, formalisée. Vous avez des prémices, vous avez une conclusion. Est-ce que vous pouvez dire que c'est par le temps que vous êtes passé du début à la fin? Est-ce que le temps entre dans la démonstration mathématique, par exemple? Le temps n'existe pas en mathématiques. C'est en physique que le temps intervient. Et bien, ce serait ça l'image du devenir qui n'est pas encore le temps. Le devenir, c'est l'ensemble de la science de la logique, c'est-à-dire les 1000 pages à peu près du développement de l'être. Et c'est au terme du développement purement logique du devenir qu'apparaît le temps. De sorte que la chronologie est un effet matériel très tardif du devenir immatériel. Bon, vous n'êtes pas censé comprendre ça dans le détail, hein, c'est juste pour vous faire sentir que la question de la chronologie est assez compliquée chez Hegel. Et enfin, et là c'est plutôt au spé que je m'adresse, ça explique aussi que tout en étant un découpage très serré des moments de l'histoire, avec une tripartition à répétition, etc., on est des emboîtements permanents, du classique et du symbolique en art, du romain et du grec dans le découpage politique, et que ça marche pas si bien que ça dans les faits. Mais c'est ce que Hegel appelle la contingence ou l'effectivité. C'est ce qui explique cela. Alors justement, on va continuer un petit peu sur la dialectique du maître et de l'esclave. Justement, je veux la terminer avant de vous rendre les copies et de passer au corrigé du devoir. De façon à vous donner le début du 2-2 qui vraiment achève cette thèse que je voulais mettre en place avant le concours blanc sur l'historicité de la liberté et même l'historicité de la morale. Nous nous étions arrêtés à la toute fin de la dialectique du maître et du serviteur. Nous avons déjà répondu à pas mal de questions intermédiaires. La question qui continue de nous tenir en haleine, si je puis dire, c'est justement l'intrication de la morale et de l'histoire, c'est l'ensemble problématique grand 3 tel que nous l'avions posé au début de l'année. Hein. La liberté est-elle pensable dans l'absence de détermination? La liberté est-elle pensable en dehors de la morale? Eh bien, nous en avons ici une illustration, au sens où, encore une fois, cette réflexion n'est pas d'abord morale, elle est d'abord historique. Et de ce point de vue-là, on voit comment on peut penser la liberté, semble-t-il, en dehors des critères du bien et du mal. Mais vous vous souvenez que je vous avais dit, oui, sauf que le bien et le mal, ici, sont pensés comme ce qui permet le développement de l'esprit, ou ce qui l'entrave. Ou plutôt ce qui semble le contredire un temps. Et donc on comprend, ah, ça je n'ai pas eu l'occasion de le dire mardi, on comprend que le mal, chez Hegel, n'est qu'une occasion pour un bien plus important. Ce qui veut dire que fondamentalement, pour Hegel, sur le plan logique, et vous verrez, ce sera également sur le plan du droit, le mal, fondamentalement, n'existe pas. Tiens, ça me rappelle les stoïciens. C'est une vieille thèse en philosophie, hein, que le mal n'est qu'une négativité, et que soit, en tant que néant, bah, il n'existe pas, car le non-être n'est pas, voilà. Soit, il n'est qu'un moment d'obstacle en vue d'un plus grand bien. conception très chrétienne, par exemple. Donc Hegel reprend cela. Et vous voyez bien que le combat, qui est un moment où l'autre semble obstruer mon passage, faire barrage à mon désir, à mon projet, eh bien en fait c'est un combat qui nous sert tous les deux. Alors c'est pire que ça, c'est-à-dire que non seulement le mal n'existe pas, et encore une fois ici on est dans une réflexion amorale, mais qui va avoir des conséquences au moment moral de l'histoire, où le mal n'existera pas non plus, hein. Donc ce sera la même thèse finalement, mais à un moment plus élaboré du développement des sociétés. Le mal n'existe pas, mais même, il est l'occasion d'un bien plus grand. Donc finalement, le mal, s'il doit exister un petit peu quand même, au moins comme à un moment dans l'histoire, dans des histoires, ou des moments dans des histoires, eh bien, il existe comme l'occasion d'un plus grand bien. Et là aussi, ça vous rappelle, alors, peut-être une certaine théologie chrétienne, mais aussi ce qu'on avait vu chez les stoïciens sur la théodicée, et le fait qu'il n'y a pas de mal réel, il n'y a que des mots locaux en vue de plus grands biens. Vous vous rappelez de cet argument repris par certaines philosophies chrétiennes par la suite? Et bien là, on en a un aspect. Alors, il nous reste le tout dernier temps que j'avais à peine nommé lors du cours dernier pour apercevoir cela. C'est que celui qui subit un nouveau mal, ici, c'est l'esclave. Voilà la figure qui est tombée dans la négativité. Lui, il n'a pas le choix de ses désirs. Il doit non seulement satisfaire les siens, s'il en a encore le droit, mais il doit satisfaire ceux d'un autre. Donc, ce qui avant était une insatisfaction de ne pas être reconnu comme homme, s'est transformé en une sorte de double peine. Il est reconnu comme esclave, donc c'est pas tout à fait le comble de l'humanité, et il a une charge de travail supérieure à ce qui était sa peine avant. Ses corvées d'avant se trouvent doublées, voire triplées. On peut parfaitement imaginer que le maître va avoir d'autant plus de désirs qu'il n'aura pas toute la peine qui va avec pour les satisfaire. Donc voici notre esclave, rattaché à son boulet, et qui semble, lui, connaître une nouvelle figure du mal. Mal logique, mal moral, mal physique, vous pouvez ici multiplier tous ces aspects. Sauf que, et c'est là où la thèse que je viens de vous synthétiser va s'exprimer encore plus, le mal qu'il connaît, l'inconfort qu'il subit, va être l'occasion d'un nouveau bien. Le bien étant, j'ai beaucoup parlé du mal, mais le corrélat est immédiat pour le bien étant ici, ce qui permet à l'individu de passer à une plus grande forme de liberté ou à une plus grande forme de conscience de soi ou à une plus grande forme de spiritualité. Et mon « ou » n'est pas l'un des trois au choix. Non, ça veut dire que c'est la même chose à chaque fois présentée de trois manières différentes. Être libre, c'est se connaître davantage. Hommage à Socrate, hommage permanent à Socrate du « connais-toi toi-même ». Mais être libre, c'est aussi avoir parcouru son chemin, car on ne peut pas se connaître, et là-dessus Hegel se distingue de Socrate, on ne peut pas se connaître sans tout le parcours par lequel il faut passer pour se connaître, qui s'appelle en l'occurrence le combat, puis la domination, puis la libération, mais qui peut s'appeler l'histoire en général chez Hegel. Alors voyons ce dernier retournement qui va d'abord valoir pour l'esclave et qui va avoir évidemment une conséquence sur son rapport au maître. Le dernier passage se trouve à la page 164 de notre texte 232 et commence par l'intitulé « La culture ou formation ». Mais le sentiment de la puissance absolue, réalisé en général et réalisé dans les particularités du service, est seulement la dissolution en soi. Si la crainte du maître est le commencement de la sagesse, en cela la conscience est bien pour elle-même, mais elle n'est pas encore l'être pour soi. Mais c'est par la médiation du travail qu'elle vient à soi-même. Dans le moment qui correspond au désir dans la conscience du maître, ce qui paraît échoir à la conscience servante, c'est le côté du rapport inessentiel à la chose, puisque la chose, dans ce rapport, maintient son indépendance. Mais c'est justement pourquoi le désir, c'est réserver à lui-même la pure négation de l'objet et ainsi le sentiment sans mélange de soi-même. Mais c'est justement pourquoi cette satisfaction est elle-même uniquement un état disparaissant, car il lui manque le côté objectif ou la subsistance. Le travail, au contraire, est désir effréné, disparition retardée. Le travail forme. Le rapport négatif à l'objet devient forme de cet objet même. Il devient quelque chose de permanent, puisque justement à l'égard du travailleur, l'objet a une indépendance. Ce moyen négatif ou l'opération formatrice est en même temps la singularité ou le pur être pour soi de la conscience. Cet être pour soi dans le travail s'extériorise lui-même et passe dans l'élément de la permanence. La conscience travaillante en vient ainsi à l'intuition de l'être indépendant comme intuition de soi-même. Alors, vous avez ici de nouveau une réflexion sur le désir, et de nouveau une réflexion sur le désir d'un point de vue amoral. Que se passe-t-il ? Le maître consomme. On avait vu que c'était la figure de la jouissance. Cette figure se trouve un peu précisée. Alors, on a toujours l'idée que, apparemment, le côté négatif de la chose a été donné au seul esclave, et que le maître serait dans le pur positif. Sauf que, tout comme dans la dialectique du désir antérieur à la rencontre des deux individus, la consommation est destructrice, de sorte que ce désir, s'il a un petit peu progressé, c'est vrai, parce qu'il est médiatisé par le regard de l'esclave et son travail, reste tout de même pris dans la contradiction issue du désir lui-même. Comme si le maître avait un peu progressé, mais pas tant que ça, ou pas autant qu'il l'aurait fallu pour vraiment dépasser la contradiction propre au désir. L'esclave, lui, est dans le désir effréné, on l'a vu la dernière fois, c'est-à-dire que lui, il fabrique, mais pas prioritairement, non prioritairement pour consommer. Alors, apparemment, on va dire, bah oui, d'accord, ok, lui, il est dans le désir effréné, mais il est aussi dans l'insatisfaction du désir. Donc c'est un peu facile de dire que lui, il ne détruit pas la chose si en même temps il n'a plus d'occasion de satisfaction. À la rigueur, lui, il serait à un stade encore antérieur à la satisfaction du désir. Donc on ne voit pas tellement à ce stade-là pourquoi ce serait une position plus avantageuse. Eh bien, la réponse, elle vous est donnée dans ce terme qu'on n'avait pas rencontré jusqu'alors. Le désir effréné est qualifié de subsistance. Et juste après, le travail est présenté comme formateur. Alors, le mot subsistance n'est pas choisi par hasard, en tout cas, dans la traduction c'est très clair, le terme allemand faudrait vérifier, mais quelque chose qui demeure, subsister, ça veut dire déjà que l'on n'a pas détruit l'objet, ça on a compris, mais la subsistance c'est aussi le moyen de survivre, c'est l'alimentation, c'est la nourriture. Et il y a là quelque chose de troublant, c'est-à-dire que l'objet demeurant, le désir n'est pas satisfait, et pourtant, il est maintenu dans sa subsistance. C'est justement pourquoi cette satisfaction est elle-même un état disparaissant, car il lui manque le côté objectif ou la subsistance. C'est-à-dire que le maître consomme mais ne subsiste pas, alors que l'esclave, lui, connaît la subsistance du désir réfréné. C'est-à-dire, le désir n'étant pas satisfait serait plus nourrissant que le désir satisfait, ce qui paraît bien paradoxal. Alors, quelle est cette forme de subsistance? On l'a expliqué juste en dessous. Le rapport négatif à l'objet devient forme de cet objet. Il devient quelque chose de permanent. Pourquoi forme? Eh bien, on vous l'a dit juste avant, le travail forme. Alors, qu'est-ce qui subsiste dans l'objet et que l'esclave peut contempler tout en en profitant comme d'une nourriture? Comme, hein, tout est dans le comme. Eh bien, le fait, très normalement reconnaissable dans un travail bien conçu, que dans l'objet du travail, j'y ai mis du mien et j'ai pris de l'autre. J'y ai mis du mien, pourquoi? Bah parce qu'il y avait en face de moi une matière qui me résistait, que j'ai pétri, que j'ai travaillé, jusqu'à en faire quelque chose de nouveau. J'ai donc transformé, hein, c'est le mot qui était utilisé deux pages avant. Et maintenant, j'ai à la fois acquis des connaissances sur la chose, je me suis battu, non plus contre quelqu'un, mais contre la chose pour en faire quelque chose, ça s'appelle la technique, hein, prendre ce que la matière est avec sa résistance pour en faire quelque chose. L'homme ne commande à la nature qu'en lui obéissant, hein, c'est Bacon qui disait ça, donc j'ai tenu compte de la résistance à la matière en obéissant à ses lois, mais en même temps en en faisant quelque chose, donc commander, obéir. Et à la fin, eh bien cet objet, c'est un peu moi. Le travail idéalement conçu ici, dans la meilleure des situations, indépendamment d'un système capitaliste, féodal, asiatique, servage, ce que vous voulez, là on n'est pas dedans. Indépendamment de tout système de production, le travail est censé être une activité par laquelle je me confronte à la matière, et dans cette confrontation, je forme la matière tout en profitant de la subsistance de l'objet, donc de la vision de ce que je suis dans l'objet. De sorte que la question se pose maintenant en ces termes, de quoi puis-je me nourrir dans cet objet travaillé où je me vois et que je ne consommerai pas ? La réponse est dans la question, du fait que je m'y vois. Rappelez-vous, je vous l'ai dit dès le départ, la dialectique hegelienne, en général, hein, pas seulement dans ce texte, est une dialectique de l'extériorisation. L'enfant qui jette un caillou dans la mare, dans la flaque d'eau. Eh bien, c'est la même chose ici, je me vois en tant que j'ai réussi à installer une image de moi par le travail de la matière, de sorte que le travail forme, entendez, donne une forme à l'objet, mais la conscience travaillante s'est formée tout en formant. C'est ce que dit en substance la suite du texte. Je prends la toute fin de la page. Dans la peur, l'être pour soi est en elle-même, dans la formation, entendez le travail, l'être pour soi devient son propre être pour elle. Elle parvient à la conscience d'être elle-même en soi et pour soi. La forme, par le fait d'être extériorisée, ne devient pas pour la conscience travaillante un autre qu'elle, car précisément cette forme est son pur être pour soi, qui s'élève ainsi pour elle à la vérité. Dans le travail précisément, où il semblait qu'elle était un sens étranger à soi, la conscience servile, par l'opération de se redécouvrir elle-même par elle-même, devient sens propre. Ou encore, dans d'autres traductions ou dans certains commentaires, faire et en faisant se faire. Ou encore, la phrase est bien de Hegel cette fois, le travail est formateur. Ou encore, dans certaines déclinaisons qu'on trouve chez Marx, commentant ses beaux textes, et mal compris par la suite, évidemment, le travail rend libre. Alors oui, cette phrase a eu une fortune. C'est comme toute phrase sortie de son contexte et utilisée par des gens pas très catholiques. Hein. Enfin, si, c'était catholique, cela, enfin, protestant, mais bon, bref, vous m'aurez compris. Le travail rend libre, c'était sur le dessus des portes de pas mal de camps de concentration et d'extermination. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Vous avez eu aussi dans l'histoire des moments où on utilise des phrases de la Bible ou des évangiles pour justifier des massacres. C'est pas pour ça que ça a été écrit pour ça. C'est surtout que ça prouve qu'ils n'avaient pas lu Hegel. Voilà, la première preuve. Parce que si vraiment ils avaient assimilé le contenu de cette phrase, eh bien, dans toute organisation du travail, que ce soit en situation de guerre ou pas, pour des prisonniers ou pas, dès lors que vous donnez un travail à quelqu'un, vous lui donnez une occasion de liberté. Donc si vraiment vous voulez le mettre dans une situation d'emprisonnement, il faut l'empêcher de travailler. Il faut l'empêcher de lire, il faut l'empêcher de penser. En fait, il faut le rendre comateux. Le tuer, éventuellement, voilà, c'est une bonne manière de vraiment l'emprisonner. Mais il y a une forme de liberté par le travail. Donc, il y a déjà un paradoxe dans l'idée, évidemment, d'abord d'emprisonner quelqu'un en le faisant travailler, et ensuite un paradoxe dans le fait de présenter ça comme une forme de liberté. Alors, vous allez me dire, mais monsieur, quand même, le travail forcé, c'est tout sauf la liberté, évidemment. Mais qu'est-ce que vous dit ce texte, si vous regardez bien ? C'est que chacune, et c'est une des conclusions que je veux que vous en reteniez, c'est que chacune des figures de la liberté que nous avons ici est une figure contradictoire. Parce que le maître, de son côté, il est libre au terme du combat parce que c'est lui qui donne les ordres et lui il n'a pas eu peur et lui il a gagné, donc il a acquis une forme d'en soi pour soi que n'avait pas l'esclave. Et donc de ce point de vue-là, il incarne une forme de liberté, mais en même temps, il se perd dans la consommation à répétition. Donc c'est une forme imparfaite de la liberté. Et l'esclave de son côté, c'est l'esclave, il subit les ordres de l'autre, il a toute la peine du travail. Et Hegel, je vous l'avais déjà dit, est aussi un philosophe de la douleur, et cette douleur est celle qui nous ramène en bas, qui nous tire, le corps nous tire vers le bas, de ce point de vue-là. Et l'esclave a eu peur. Donc il est apparemment plus près de l'animalité que son être, mais en même temps, il connaît, entre guillemets, les joies du travail, si, et seulement si, et ça évidemment ça ne se fait pas en camp de concentration, enfin tout dépend le travail que vous donnez, évidemment, mais pas en cassant des cailloux, c'est ça que je veux dire, le travail, idéalement, vous permet de vous apercevoir dans votre objet. Ce qui veut dire que le travail ne sera vraiment un lieu d'expression de la liberté que s'il permet à l'individu d'exprimer l'ensemble de ses facultés jusqu'à imprimer son expression dans l'objet. Je m'inspire ici d'une belle expression d'Emmanuel Occart quand il commente la situation du poète, mais qui marche pour tout travail, selon moi, enfin tout travail bien compris, qui est le rôle du poète, je crois. Le rôle du poète, ce n'est pas d'exprimer des impressions, mais d'imprimer des expressions. Voilà. Pas mal, hein ? Joli chiasme. En tout cas, ça marche pas mal pour le travail quand il est bien conçu. Évidemment, quand vous êtes esclave dans une mine de Germinal, ça marche pas. Quand vous êtes à faire du travail forcé qui n'a aucun intérêt, ou en tout cas que la machine pourrait faire parce que la tâche est servile, ce n'est pas intéressant. Ou toute activité, même si elle n'est pas forcée, qui ne permet pas à la totalité de vos facultés de s'exprimer, c'est-à-dire à votre esprit de s'y retrouver, et donc à votre esprit de connaître la matière qu'il travaille, alors ce n'est pas un travail qui vous spiritualise. Donc Hegel ne dit pas que tout travail permet d'être plus libre. Il vous fait comprendre qu'il va falloir distinguer les travaux qui sont intéressants de ceux qui ne le sont pas. Toujours est-il que la conclusion, maintenant j'espère, devient claire, c'est que l'esclave, lui, a continué, à la suite du combat, son travail de libération, face à la matière, cette fois, mais aussi face à lui-même, hein. Tandis que le maître s'est perdu dans une jouissance qui ne le satisfait plus. On a donc bien affaire à deux aspects de la liberté, mais deux aspects imparfaits, et c'est la raison pour laquelle la suite de l'esprit objectif nous présentera d'autres figures de la liberté qui correspondent au travail de cette liberté dans l'histoire. Et juste avant de vous les présenter, je voudrais dresser le bilan de cette dialectique du maître et de l'esclave, du maître et du serf, si on veut être précis, hein, parce que c'est pas un esclave au sens où il serait au fond d'une soute ou quelque chose comme ça, c'est vraiment quelqu'un qui travaille, hein, donc c'est l'idée d'un rapport d'asservissement dans le travail. Alors, première chose, pour l'ensemble de nos problématiques annuelles, à la question de la méthode de la morale, c'était la question 2-4 de notre cours annuel, quelle est la bonne méthode pour étudier la morale ? Il y a une réponse ici, qui est que la morale naît d'une nécessité logique, et donc la méthode pour faire de la morale, ce n'est pas de partir nécessairement du bien, du mal, des proverbes ou des intuitions morales, mais de partir de l'histoire humaine, et de s'apercevoir que la morale, est-ce qu'elle est née dans ce texte, le rapport à autrui est né avec déjà une discussion sur des valeurs de la servitude, etc. Donc on a les prémices. Hein. Eh bien, la morale naît d'une nécessité logique et historique. La morale a une histoire, voilà. Et je vous avais dit que c'est ce qu'on allait retenir finalement du darwinisme moral, voilà, c'est ce qui se passe ici, mais sur un autre plan, bien sûr. Et donc, utile aussi pour nous, vous voyez, vous avez tendance dans vos copies et vos colles aussi d'ailleurs, à me terminer sur Nietzsche parce que c'est pratique, parce que c'est joli, parce que c'est poétique, parce que le relativisme c'est toujours plus commode. Pourquoi pas, hein, si c'est du relativisme par le haut, comme je vous l'ai dit, moi ça me va. Si c'est bien argumenté, pourquoi pas. Mais là, vous avez une lecture qui est pas du tout relativiste et qui vous montre que la morale peut quand même avoir une histoire. C'est la seule lecture historique de la morale, selon moi, où l'on ne retombe pas dans un relativisme qui a les mêmes défauts immédiatement ou médiatement que le relativisme habituel. Bien sûr, il y a une forme de relativisme chez Hegel, au sens où le bien se reconvertit en mal, qui se reconvertit en bien, etc. Mais jamais de la même manière. Et tout cela, in fine, sera lu à l'aune du savoir absolu, qui n'est pas du tout un lieu de relativisme. Alors là, c'est absolu, par conséquent, c'est pas relatif. Deuxième thèse à retenir, par rapport à nos questions initiales, bien sûr, eh bien, la morale ne se comprend pas d'abord dans l'histoire d'une recherche de cohérence, ou en tout cas, pas tout de suite, hein, et ce sera même pas une cohérence à la fin, donc pas du tout, mais comme le fruit d'une contradiction et d'une histoire de la contradiction. Aïe à mon kantisme. Difficile d'être conscient jusqu'au bout. On en reparlera juste après le concours blanc. Il va y avoir toute une réflexion de Hegel justement sur la pensée de Kant, dont il va faire un moment essentiel de la morale, mais un moment contradictoire qu'il faudra dépasser. C'est-à-dire que, à l'intérieur de l'impératif catégorique, il y aura une contradiction qui sera à l'œuvre et qui sera motrice pour le développement d'un bien plus haut dans le domaine moral. Troisième élément à retenir, à propos du conflit, en particulier, je pense pas que vous ayez comme sujet le conflit, mais vous pouvez avoir un sujet très classique sur, la morale permet-elle de faire coexister les libertés, vous pourriez avoir à parler du conflit et de sa valeur éventuelle. Le conflit est présenté dans la plupart des morales comme le mal. Voilà, on est en conflit quand l'un veut dominer l'autre, quand on n'arrive pas à s'entendre, et puis ça développe la colère, et c'est des mauvaises passions, etc. Bon, voilà, la violence engendre la violence, etc. Bon. Mais en même temps, on comprend ici que le conflit peut être alimenté par autre chose que par la méchanceté, par autre chose que par l'orgueil, par autre chose que par le besoin de survivre. Au contraire, le conflit est d'abord engendré par le besoin de dépasser les nécessités de la survie. Et plus encore, que le conflit joue un rôle positif dans le développement de l'esprit et en particulier de la morale. De sorte qu'on peut tout à fait considérer que cette dialectique qui n'a peut-être pas existé en tant que telle dans la nature, disais-je tout à l'heure, mais qui fonctionne comme un paradigme, eh bien, il est selon Hegel, ce paradigme, le propre de toute relation humaine. Ah, ça déçoit souvent quand on s'en rend compte. Comment il y aurait du conflit, même dans mes relations polies, courtoises, voire amicales, voire amoureuses, à supposer que ce soit encore plus intense? Eh bien, la réponse de Hegel, c'est oui, sans aucune forme de contestation. Qu'y aurait-il par exemple dans un rapport de politesse normale, de collaboration dans une entreprise, de rapport marchand avec un commerçant, qu'y aurait-il de conflictuel? Alors immédiatement, rien, c'est sûr. Mais immédiatement, beaucoup. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans un rapport de politesse, on dit souvent que c'est une forme d'hypocrisie. Oui et non, ça peut être sincère. Mais ce sera sincère jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que la politesse s'arrêtera s'il y a un phénomène de compétition qui fait que la politesse ne suffit plus. De même, dans le rapport marchand, vous allez acheter votre baguette de pain. Est-ce qu'il y a une forme de conflit avec la boulangère? Pas directement. Mais n'empêche que vous êtes dans un rapport, au moins minimalement, de force. Puisque vous êtes sur un marché qui fixe le prix, l'offre et la demande. S'il n'y a plus d'offres, le prix devra baisser, n'en déplaise à la boulangère. S'il y a trop d'offres, le prix augmentera, n'en déplaise au consommateur. Tout marché est un rapport de force. Il ne vous est pas présenté comme tel par le capitalisme. Le capitalisme est merveilleux, tout est parfait, on n'a jamais été aussi heureux depuis la nuit des temps. Qui peut le prouver, ça, d'ailleurs, hein? On n'a jamais bénéficié d'autant de progrès techniques. Yes, and so what? En quoi ce serait la preuve que ça rend l'homme heureux? On n'a jamais été aussi libre. Bon, je sais pas, oui, on n'a peut-être jamais autant développé la forme démocratique. Je suis pas sûr que ce soit directement lié au capitalisme, d'abord. Les Grecs n'étaient pas des capitalistes, bon. Et puis ensuite, on n'a jamais aussi peu voté alors qu'on en avait autant le droit. Enfin, vous voyez, c'est plein de contradictions, surtout le capitalisme, mais tout ça sous le tapis pour que ça se voit pas. Mais en fait, le capitalisme, c'est d'abord un rapport de force. Pas besoin d'être marxiste pour s'en apercevoir. C'est un rapport de force. Le servage était un rapport de force. L'esclavagisme était un rapport de force. Donc on n'a rien changé. Hein. Et ceux qui disent « Ah bah heureusement maintenant il y a le capitalisme, l'entreprise citoyenne, le plaisir de la start-up où tout le monde est heureux d'aller au travail », j'espère, que les gens sont heureux, mais méfiez-vous que le bonheur ne soit pas simplement une domination qui, d'avoir été tellement bien travaillée, a fini par vous paraître naturelle, ce qui est la meilleure manière de bien dominer. Bon, donc le capitalisme, j'en suis désolé, est aussi un rapport de force. Et certains dominent, ils sont peu nombreux, la majorité des dominés. Pas facile, hein, d'échapper à ce rapport-là. Et une version très catéchétique de l'existence dira: ah, mais pas du tout, il faut échapper à ça, c'est le mal. Hegel vous donne bonne conscience à vie, il y a du conflit partout. Oui, mais monsieur, quand même, dans le rapport amoureux. Ah! Alors, Hegel n'est pas un grand poète romantique dans la phénoménologie de l'esprit. Il l'a été, mais là, il ne l'est plus. Le mieux, c'est d'aller voir du côté de Sartre, qui développe ça d'une façon très hegélienne et d'une façon, à mon avis, extrêmement brillante. Enfin, je ne dis pas que j'adhère totalement, mais je veux dire, sur cette page-là, dans une veine hegélienne, il tire le fil jusqu'au bout, à savoir que tout rapport amoureux est constamment une alternance de relations sado-masochistes. Voilà. Avec un qui joue au sadique, l'autre qui joue au maso, et réciproquement. C'est-à-dire que les rôles s'échangent régulièrement. De sorte que Sartre, qui a écrit les pages que j'évoque dans L'être et le néant, bien avant que l'édifice du couple occidental s'effrite, enfin, je ne dis pas qu'il est totalement effrité, mais il se fragilise en tout cas, devait pas s'étonner beaucoup dans les années 60-70 de voir le nombre de divorces se développer. Parce que pour lui, d'emblée, toute relation amoureuse est une contradiction. D'ailleurs, le rapport à autrui est une contradiction, donc le rapport amoureux n'est qu'une version un peu plus visible de cette contradiction. Je t'aime, moi non plus, ça tombe bien, moi non plus, bah moi aussi. Bon, voilà, c'est ça le rapport amoureux chez Sartre. Et donc au début ça amuse, et après on se met des baffes. Mais je veux pas que tu me gifles, bon bah j'arrête, mais si quand même, parce que ça prouve que tu m'aimes, bon bah je continue, mais non arrête, d'ailleurs moi aussi je vais t'en mettre, mais non je veux pas, mais si vas-y, bon, voilà. Donc le rapport amoureux est par essence contradictoire, mais d'une façon évidemment moins caricaturale que ce que je viens d'évoquer, dans le fait notamment, nous dit Sartre, de nous approprier l'autre, que ce soit par son corps ou par tout un tas de situations, puisqu'il le réclame, mais qu'en même temps il ne le souhaite pas. Alors, je ne développe pas davantage, mais ce que j'essaie d'instiller dans votre esprit, c'est que le conflit n'est pas forcément à lire avec une grille morale, encore moins avec uniquement une grille juridique, et que Hegel voit la contradiction propre du conflit. C'est quelque chose d'éminemment important dans le développement de l'esprit et dans la conscience de soi, mais c'est quelque chose que nous ressentons négativement. Nous reviendrons là-dessus quand nous évoquerons la vertu et le vice de la guerre au moment de traiter de la philosophie dans l'histoire. Dernière conséquence à retenir de l'ensemble de ce développement, eh bien, la conscience de soi ou la connaissance de l'esprit par lui-même ou la liberté, c'est la même chose chez Hegel, sont moins des qualités, sont assez peu des résultats qu'ils ne sont d'abord une histoire. La conscience de soi, c'est d'abord un processus. La liberté, c'est d'abord un processus. Alors, je ne peux pas vous dire tout à fait que ce n'est pas non plus un résultat, parce que au terme du processus, dans l'achèvement de l'histoire, c'est quand même plus un résultat qu'un processus. Mais même là, c'est encore un processus, parce que à la toute fin de la phénoménologie de l'esprit, l'esprit se connaissant par lui-même, ne se connaît qu'en tant qu'il récapitule pour lui-même l'ensemble de son histoire, et qu'il contemple l'ensemble de son histoire. Donc c'est la contemplation stable de quelque chose de dynamique. Je ne sais pas si on peut en parler comme d'un résultat, ça m'embête un peu de dire résultat. C'est le résultat de quelque chose de dynamique, ou la dynamique de quelque chose qui a abouti comme un résultat. Bon, rien n'est stable chez Hegel. Après, on a des instabilités plus travaillées que d'autres. Mieux vaut être à l'instabilité de la fin qu'à l'instabilité du début. Mais concrètement, le vrai est le tout, c'est-à-dire que la liberté ne se comprend que dans la totalité des étapes par lesquelles elle est passée, et par lesquelles, étant arrivée, elle se présente comme la contemplation de ce processus même. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, en tout cas sur le cours sur Hegel. On reprendra exactement à cet endroit-là après le concours Blanc, ce qui fait que grosso modo, on fera 4 heures sur Hegel encore. C'est trop peu, mais il faudra s'en contenter. On aura 1h30 sur la correction du concours Blanc. Et puis 2h30 me suffiront pour faire l'ensemble du dernier chapitre dont j'avais prévu dès le départ, que je le modulerai en fonction du temps qu'il nous resterait. Il est un peu moins important, c'est une manière d'utiliser toutes les problématiques antérieures dans des problématiques plus contemporaines, sur la technique, sur le transhumanisme, mais c'est pas scandaleusement nouveau. Et de ce point de vue-là, on aura vu l'essentiel. Alors, on s'arrête là pour le cours, et je vous rends vos copies. La bonne nouvelle étant que vos devoirs sont en progrès, sur un sujet pourtant qui n'était pas facile. Les notes vont... Alors, il y a des copies inachevées, c'est ce qui explique que certaines sont basses. Les notes vont de 5 à 15. Les 5 ne sont pas représentatifs du niveau des personnes. Hein. Quand une copie est inachevée, bon, bah, la note est un peu planchée, c'est normal. Un inachèvement pouvant être... c'est triste à dire, mais même quand il manque une conclusion, c'est déjà largement inachevé hein, pour un correcteur. Donc, il y a inachevé ou pas inachevé. Hein. C'est pas... le degré d'inachèvement qui fait l'inachèvement. J'ajoute que